The Craft Project est un média engagé à faire grandir l'appétit pour les métiers d'art en donnant la parole à ceux qui les exercent. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit en mêlant la technique du virtuose, la malice de l'inventeur et la poésie du créateur. Professionnels des métiers d'art, étudiants, institutions, écoles, passionnés, au carrefour de tous les acteurs du secteur, nous écoutons, nous racontons, nous relayons, nous rassemblons. Nous sommes engagés pour montrer les métiers d'art tels que nous les vivons, exigeants, créatifs, innovants et désirables. Nous sommes engagés pour contribuer à ce que les métiers d'art soient plus souvent choisis, plus souvent transmis et plus souvent achetés. Nous sommes engagés parce que nous voulons résister à l'uniformisation du monde et que nous pensons que l'art de la matière est une arme pour faire à nouveau régner la beauté dans nos cités, dans nos vies et dans nos cœurs. Je suis Raphaëlle Lebeau et aujourd'hui, je vous invite à une visite les yeux fermés de l'exposition Sur le fil, organisée par le 19M au musée Théodore Monod d'art africain à Dakar en janvier 2023. La galerie du 19M est l'espace culturel du 19M, Olympe des métiers d'art, réunissant les ateliers rachetés par Chanel, Porte d'Aubervilliers. Cet espace est pensé comme un lieu de rencontre ouvert sur la vie et sur la ville. À travers cette première proposition hors les murs, la conversation s'élargit. La galerie du 19M à Dakar, c'est de la soie, des rencontres et de la joie. Vous venez avec moi ?
Voilà Dakar.
Bonjour Bruno Pavlovski.
Bonjour.
Vous êtes président du 19M et président de Chanel Mode. Vous avez organisé avec Virginie Villard le premier défilé Chanel Métiers d'art sur le sol africain il y a quelques semaines. Pourquoi avoir voulu prolonger cette expérience à travers la programmation culturelle de la galerie du 19M ?
Cette exposition, il ne faut pas la voir toute seule. Il faut la voir dans le cadre de la présence de Chanel à Dakar et au Sénégal. Tous les gens qu'on nous a rencontrés nous ont amenés à Dakar, parce que Dakar est tout simplement le hub créatif aujourd'hui du Sénégal, peut-être de l'Afrique, dans tous les cas de l'Afrique subsaharienne, c'est sûr. Ça nous a planté la graine de l'importance de venir ici à Dakar et de collaborer, donc d'engager un dialogue créatif. Comme on le fait à la galerie du 19M, c'est-à-dire travailler artisan, artiste, avec ses savoir-faire spécifiques. Et c'est comme ça que l'idée est arrivée. D'abord, on s'est dit, tiens, on l'a fait au 19M, à la galerie du 19M, ça a bien marché. Ça donnait des résultats absolument incroyables avec des installations, on n'avait pas imaginé, même les artisans n'avaient pas imaginé qu'ils contribueraient et qu'ils participeraient à ça. Et ici, on a élargi le concept en se disant, non seulement c'est des artistes, mais il y a aussi tout l'artisanat local. Il faut que d'une façon ou d'une autre, on lui donne une place. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette exposition qui en fait pour nous, le fil conducteur, c'est la transmission. Donner envie à des jeunes de rentrer sur ces métiers de la main. Il y a une vingtaine d'artistes, les curateurs, et il y a tous les techniciens qui ont contribué, etc. Et franchement, ça fait un plateau d'une qualité exceptionnelle qui reflète bien ce hub créatif qu'est Dakar. Et donc tout ça est arrivé comme ça.
Merci Bruno Pavlovski.
Merci à vous.
Jumali Ndiaye, je suis historien de l'art et conservateur du musée Théodore Monod d'art africain de l'IFAM.
On était en train de discuter tous les deux en se disant qu'il y avait une articulation à faire sur les savoir-faire dans certains territoires et peut-être au Sénégal entre le folklore, la tradition et l'excellence. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire sur ce sujet ?
Je pense que dans certaines zones du monde, la sociologie du rapport à l'excellence, au folklore et une sociologie qui peut changer. Les rapports ne sont pas les mêmes, mais j'ai comme l'impression qu'au Sénégal, les savoir-faire traditionnels sont très liés à un rapport populaire, on peut l'appeler folklore, puisque c'est un savoir-faire dans les textiles, dans le pagne. C'est pas exclusivement destiné à l'excellence, c'est plus populaire, c'est plus partagé. Depuis quelque temps, je vois soit des stylistes, soit des boîtes, soit des associations qui essayent de s'approprier de ces motifs, de ces savoir-faire, de ces produits qui sont bien ancrés dans certains terroirs pour en faire quelque chose qui peut être élevé au titre de l'excellence, comme on peut le voir avec les grandes marques internationales. Ça, c'est un fait. Je pense que de plus en plus, il y a quelque chose qui est en train de changer.
Comment s'est organisée la transmission des savoir-faire au Sénégal? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce que c'est une transmission entre pairs dans les ateliers?
Pour plusieurs métiers, hein, que ce soit la vannerie, que ce soit la poterie, le tissage, la cordonnerie et beaucoup d'autres métiers, pendant longtemps, ici au Sénégal et dans certaines zones d'ailleurs, c'était organisé en groupe. Souvent on les appelle les castes, c'est-à-dire que il y a un groupe dans la société qui est spécialisé dans ça et qui transmet les connaissances de père en fils, de génération en génération. Aujourd'hui, la chose continue plus ou moins, mais le système de transmission n'est plus le même. On voit avec cette approche de l'excellence des boîtes qui peuvent s'installer et des personnes qui ne sont pas biologiquement ipso facto liées à l'histoire du matériau ou bien de sa fabrication, s'installer et être dans un métier qui va améliorer les techniques, faire des designs qui vont s'inspirer de la tradition certes, mais qui seront beaucoup plus artistiques et qui vont évoluer vers autre chose.
Mais les techniques elles-mêmes, il faut bien les transmettre et les apprendre.
Quand on va dans les familles des tisserands par exemple, ils ont des machines qui sont anciennes, c'est une technique qui reste, une manière de faire qui a peu évolué, disons. Mais la transmission maintenant, ça peut s'organiser avec des écoles, hein, une formation sociale qui dépend du ministère de la formation professionnelle. Là, il y a la broderie qu'on apprend, il y a le tissage, il y a l'indigo, il y a pas mal de choses qui sont transmises dans cette école-là. Les étudiants peuvent sortir, avoir un métier ou bien même pouvoir leur propre business ou bien travailler dans d'autres boîtes.
Et alors justement, cette initiative de Chanel, la Galerie du 19e à Dakar, qu'est-ce que ça apporte à l'écosystème des savoir-faire?
Mais je pense qu'il faut du recul pour savoir ce que ce contact a véritablement apporté. Mais du point de vue du chercheur que je suis, je pense que des initiatives de ce genre sont utiles et vitales dans le sens où quand on parle de recherche, on s'ouvre. Et l'artisanat d'art, l'artisanat, la mode, le design, tous ces secteurs ont besoin de recherche, ont besoin d'évoluer, de se réinventer. Et donc le fait d'être en contact avec Chanel, qui est un spectre ouvert sur le monde, permet à tous les acteurs qui ont participé d'être en contact avec le monde entier autrement. Donc c'est heureux, c'est vital. Et je pense que c'est des choses à continuer parce que cette circularité du monde-là, c'est ce qui rend riche les découvertes, les savoir-faire, c'est ce qui les fortifie dans ce qu'ils sont déjà, qui les améliore, qui peut les faire évoluer, tout en gardant la matrice, la racine, pour ne pas se dévoyer. Hein.
Merci beaucoup. Merci. Je suis directrice de la galerie Le Manège, qui est la galerie d'exposition de l'Institut français du Sénégal à Dakar, et je suis responsable du pôle art visuel. Et je suis aussi membre du comité curatorial de la galerie du 19e à Dakar. Racontez-nous cette aventure avec le 19M, comment ça s'est passé et quelle a été votre implication ?
Alors l'aventure, elle a été assez incroyable, elle a commencé un peu avant le défilé Chanel. L'idée, c'était de faire une continuité de ce défilé, qui était vraiment dédié aux maisons d'art, et de travailler en partenariat avec le 19M Aubervilliers. Mon rôle, ça a été d'essayer de créer des ponts entre les deux villes, donc entre Aubervilliers et Dakar, de mettre en place des co-créations artistiques, et c'est ce qu'on a réussi à faire sur un certain nombre de projets, et d'identifier les artistes sénégalais qui sont en lien avec différentes techniques textiles et qu'on pouvait intégrer à l'exposition. On a sélectionné les artistes assez rapidement, on a passé des commandes pour certaines personnes. Ensuite, on a mis en place donc les collaborations, on va dire, vraiment entre Aubervilliers et Dakar, qui ont souvent été des collaborations réalisées à distance. Il y a eu des rencontres physiques, notamment autour du défilé en décembre. Et ensuite, on a fait beaucoup de choses à distance et c'était absolument génial. On a travaillé avec un centre culturel ici, un centre d'art, qui a travaillé avec la maison Montex à Aubervilliers. Et là, il y a énormément d'échanges qui ont été faits par WhatsApp. Enfin, voilà, c'était la nouvelle manière de communiquer aussi qui était assez intéressante. Sinon, on a mis en place un projet avec un artiste de Push, qui s'appelle Julien Farad, qui en fait a peint des toiles qu'on a fait rebroder ici par des brodeuses d'un village, le village de Ngaïméré, qui est un village artisanal dans lequel 200 femmes sont impliquées dans la broderie, qui est une broderie au Sénégal, normalement la broderie traditionnellement est réservée aux hommes. Là, c'est une broderie qui est réalisée exclusivement par des femmes. Voilà, 200 femmes. C'est une broderie très ancienne, un patrimoine très important. Et donc, elles ont rebrodé les œuvres de Julien. Et donc là, c'est vraiment nous qui avons fait le lien. Voilà, j'ai emmené les œuvres moi-même au village. J'ai été les rechercher. C'était assez chouette.
Et donc, vous avez été témoin de cette rencontre depuis le départ.
Ouais, c'était vraiment incroyable. En fait, pour Julien, en fait, on lui a proposé plusieurs options. On avait envie de travailler avec lui. On aimait bien sa peinture qui est autour du bestiaire, des animaux, beaucoup de taches de couleurs comme ça qu'il jette sur les toiles. Et on lui a proposé de travailler sur des toiles de coton en malicane brute, qui sont les toiles qu'utilisent les femmes ici pour les broder et porter les enfants au dos ensuite. Donc c'est comme un grand pareo, ça fait à peu près un mètre. Et donc on lui a envoyé, il a adoré l'idée, on a beaucoup parlé aussi de la culture ici, donc il s'est inspiré aussi d'un conte très connu, que tous les enfants sénégalais connaissent, qui s'appelle Loc le lièvre. Et donc il a dessiné des animaux, des oiseaux, des villages, voilà, ces villages imaginaires, son bestiaire imaginaire aussi. Et ensuite, on a fait travailler plusieurs brodeuses, on a aussi fait travailler Radi Jaba, qui est styliste, qui nous fait le shop là, aussi à l'entrée de l'expo, qui elle travaille avec une brodeuse spécialiste de cette broderie de Ngaïméré depuis 7 ans. Et elles ont travaillé toutes les deux aussi sur certaines des toiles. Donc voilà, on a fait cette collaboration qui du coup intègre une vingtaine de personnes en tout, qui a été fait complètement à distance, mais avec le lien concret, parce qu'on est quand même dans le tissage, la trame, et je pense qu'on est en plein dedans.
Je vais aller voir ça de ce pas.
Ouais.
Merci Olivia. J'ai envie de décrire votre robe et votre tenue, qui est magnifique. Vous êtes dans une robe, c'est quelle matière ?
Ça, c'est du basantin.
Du basantin, donc c'est brillant, on dirait presque du cuivre.
Exactement, et c'est des systèmes de teinture d'époque, qu'on appelle palmane, qui est reconnu et fait au Mali par des artisans teinturiers qui font un travail remarquable autour de ces techniques-là.
Vous avez un chapeau assorti à votre robe ? Et vous avez des bijoux sur vos dents. Ouais. On dirait une princesse.
Oui, toutes les femmes sont des princesses. Ressemble à de la gratitude que je dois à la vie.
Je ne sais pas quoi dire, moi, après ça, c'est trop beau. Comment vous vous appelez et quel est votre métier ?
Je suis Marie-Madeleine Diouf. Je suis la directrice artistique de la marque Nounou Design by Deka. Donc nous faisons un travail de recherche autour du textile africain et de la photographie noir et blanc des années 40 jusqu'aux années 80.
Comment vous pouvez me décrire l'œuvre que vous présentez aujourd'hui à la Galerie du 19M ?
La scénographie que je propose tourne autour de l'indigo, du process de fabrication de l'indigo. Donc c'est des plantes à partir de ces feuilles plutôt d'indigo et du fixateur naturel qu'on parvient à avoir ces pagnes d'indigo avec les réserves utilisées pour pouvoir sortir les motifs. Donc là, vous avez le système de repassage naturel et traditionnel. Vous avez aussi un tas de vêtements parce que c'est comme ça que ma grand-mère gardait ses vêtements.
C'est vrai ?
Oui, c'est comme ça qu'elle les gardait. Dans un pagne. Ce boubou que vous voyez au mur, c'était son boubou. Je le tiens de son héritage que je préserve plutôt avec beaucoup de reconnaissance qui en dit long sur son vécu et l'élégance qui accompagnait sa vie. On le retrouve aussi dans la photographie parce qu'on ne peut pas parler de photographie noir et blanc sans parler de textile. Parce que toutes ces personnes qui ont posé ont porté du textile à un moment pour poser.
Le lien entre la photographie et l'indigo, c'est le textile.
Ouais, tout à fait.
Et votre grand-mère, elle était artisane elle-même ?
Non, elle était une femme élégante avec beaucoup de valeurs, de principes, qui vivait de transmission. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Elle est décédée il y a 8 mois. Voilà, c'est un voyage aussi, la mort.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Bambali, 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 bamba, so ye bali bamba, bambali, bamba, ye bambali, bambali, bamba, so ye bali bamba, bambali, bamba, ye bambali, ye wanatoli, ba ye wanatoli, ba ye wanatoli. Bambali bamba, so ye bali bamba, bambali bamba, bambali bambali, bambali bambali, bambali bambali, bambali bambali, bambali bambali.
On part d'une œuvre de Juliane Farad avec Khadija Ba et les brodeuses de Ngaï Meke. Bonjour madame, comment vous vous appelez ?
Madame Diagne, Linda da Silva.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?
Ça c'est le tissage avec le coton. En Olof, on dit ça falle.
Ça vous plaît ce métier ?
Oui, ça me plaît beaucoup. Dans nos ethnies, Manja, c'est des hommes qui font ça la plupart.
D'accord.
Mais moi, j'aime bien.
Et ça va être votre métier donc d'être tisseuse ?
Oui, c'est notre métier.
Merci Linda.
De rien.
Je suis Julien Farad.
Vous êtes artiste ?
Oui, je suis artiste. Oui. Je fais de la peinture, de la broderie et de la sculpture.
Pouvez-moi raconter cette aventure ?
Alors cette aventure, ça a été une aventure collaborative avec l'artisanat sénégalais. C'est une aventure avec une artiste contemporaine qui reprend un point traditionnel qui est fait sur la route de Saint-Louis par un village de femmes qui brodent de l'ornement, pour un tissu pour porter les bébés.
C'était comment cette rencontre, ce travail, ces échanges qui se sont faits à distance en plus ?
Oui, oui, oui. Tout à distance, en gros, c'est un peu déjà au début abstrait et puis ensuite très concret. C'était hyper bien vécu.
Non, déjà, c'était une belle expérience pour vous.
Ouais, super belle expérience.
C'était émouvant ?
Méga émouvant, je pleure à l'intérieur.
Ah oui, vraiment ?
Ah ouais, vraiment, parce que c'est la première fois aussi que je travaille en duo, et là avec un duo aussi hors terrain, quoi. Ça appelle beaucoup au silence et à l'intérieur, et le fait que ça a été aussi bien compris et aussi bien réenforcé, ça me touche trop, quoi.
Parce qu'en fait, c'est vos dessins que les brodeuses se sont réappropriés.
Oui, oui, elles ont du coup retravaillé sur mes dessins et sur mes peintures, et elles ont soit souligné, soit... Elles sont venues amener d'autres choses qui leur appartiennent, comme de la narration ou d'autres formes animales. Et ça me touche tout qu'elles puissent se projeter dans un univers qui n'est pas forcément leur et qui, moi, me parle quand même. Enfin, vous voyez, il y a comme un...
Une conversation.
Une conversation, mais télépathique. Et ça, c'est génial. Et surtout, hors continent. Enfin, c'est incroyable. Ça me touche, mais au-delà de tout ce qui peut me toucher, vous voyez. J'ai pas encore digéré, quoi.
Vous les avez jamais vues en
vrai ? Non ! J'ai des vidéos d'elles quand il y a l'éballage des œuvres. Et elles se sont battues pour les œuvres apparemment, donc je suis trop heureux. Elles étaient hyper excitées par le projet et hyper emballées par la liberté que ça leur permettait aussi d'avoir, quoi. Si je peux être un support de liberté, mais il n'y a rien de mieux pour l'art, je trouve. La liberté créative, ça amène aussi une liberté aussi d'esprit, ce qui fait que je pense qu'après, ça m'assère et ça amène d'autres choses aussi en pensée, enfin j'espère en tout cas. Parce que même si ça paraît comme être juste une couleur, la réflexion dessus, ça amène forcément de choses dans le quotidien, quoi. Et l'art, c'est bien pour ça.
Donc vous êtes artiste au Push ?
Moi, je suis résident chez Push depuis 2 ans, donc depuis le premier qui était à Clichy. Et maintenant, j'ai déménagé à Aubervilliers avec les autres.
Vous pouvez essayer de me décrire ? Racontez-moi un peu les couleurs, les motifs. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Oui. Et qu'est-ce que vous entendez de ce qu'elles, elles ont voulu dire ?
Alors, ce que j'ai voulu dire, moi, j'ai voulu parler d'une rencontre et du coup d'une rencontre qui est affective, mais du coup la rencontre affective, elle se fait aussi dans la lutte. Et donc, ce qui se passe dans l'œuvre qu'on voit, c'est un oiseau orange qui rencontre un oiseau crocodile bleu-noir dans un coucher de soleil. C'est un moment de tension et de surprise. qui crée de l'abstrait et du coup du mouvement, parce qu'il y a forcément envie de fuite, mais aussi curiosité. Donc qu'est-ce qui se passe quand il y a deux corps étrangers qui sont amenés à se rencontrer? Voilà, c'est la question que je pose dans mon travail.
Donc voilà, ça c'est ce que vous avez voulu dire.
Ouais, voilà.
Et on découvre, en ajout, leur histoire à elles, plus joyeuse que ce que vous y aviez mis.
Complètement plus joyeuse.
Facétieuse.
Facétieuse, onirique, narrative, beaucoup moins abstraite et très poétique. Avec des visages, des feuilles, des décorations, des répétitions. Donc beaucoup, finalement, sur un travail qui peut être un peu plus agressif et disons feu, le mot ce serait feu pour l'œuvre qu'on voit, et ben elles ont fait quelque chose de très terrien et très aqueux, lié à la terre, au partage, et ça marche trop parce que du coup ça crée un équilibre, vous voyez ?
Je le vois, moi je le vois. Ça crée un équilibre qui est surprenant et extrêmement émouvant.
Ouais.
Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est comme un petit garçon qui viendrait pleurer sur les genoux de sa maman.
Ouais.
Et sa maman qui lui fait un grand sourire en disant « Viens mon chéri ».
Exactement, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis oui, c'est ça. Et puis surtout de savoir que, comme vous venez de le dire, c'est le garçon qui vient pleurer sur les genoux de sa maman, c'est et sur des mamans que je connais pas. Du coup, ça... C'est hyper beau cette tendresse quoi, qui amène la broderie et l'artisanat. Je trouve que l'artisanat, ça amène ça. Ce que l'art amène pas forcément toujours, parce que du coup, l'art, ça part sur des choses qui seraient plus violentes et plus viscérales. L'artisanat amène une tendresse et un confort du quotidien. Quoi. Et c'est génial comme collaboration, du coup.
C'est sur le dos qu'on sent leur présence le plus. Leur présence minutieuse, répétitive.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent la présence sur les dos et l'absence aussi, du coup, de mon œuvre en transparence.
Enfin,
c'est
complètement.
C'est hyper bien.
Il n'y a plus qu'elle. C'est comme
ouais.
Comme si on n'entendait plus que leur voix.
Ouais, ouais, ouais. Leur réconfort, le dos, c'est vachement réconfortant. Et en plus, c'est l'endroit où on porte le bébé, donc...
C'est tellement émouvant, ce travail-là.
Non, c'est trop bien. Et c'est pas le mien, et du coup, je suis trop heureux.
C'est...
Non, mais c'est... C'est trop, trop émouvant.
C'est incroyable ce qui est né de cette rencontre magique autour du savoir-faire et de l'art, et de la créativité.
Qui amènera plein de choses, je pense, après, pour moi comme pour elle, j'espère.
Ouais.
Des œuvres géantes.
Des œuvres géantes,
mais
mentales.
Ah ouais, je pense qu'il faut. Puis là, plus de temps pour broder, plus de couleurs, puis voir comment on peut faire grandir le projet et puis l'amener ailleurs, quoi. D'autres brodeurs, plein de choses à faire.
Bon, alors la bonne nouvelle pour nos auditeurs qui pourront passer à Paris, c'est que ces œuvres vont être exposées au 19M à Aubervilliers, à partir du mois de mai 2023. Donc voilà, parce que j'imagine que c'est très frustrant pour eux de nous voir nous exciter tous les deux comme des dingues. Et c'est difficile de décrire là ce qu'on est en train de ressentir, mais quand même l'idée de la conversation raconte bien la chose. Donc vous pouvez venir voir et rencontrer Juliane à cette occasion. Merci Juliane. Parce que j'aimerais bien vous décrire toutes ces histoires que je vois. Dans ces peintures, il y a quelque chose de très brutal, violent, adouci par des couleurs très vives et très joyeuses, mais bon quand même, des mouvements, des luttes, des rencontres. Et on a la broderie qui vient, par touches, apporter des couleurs en contraste, douces, joyeuses, très élégantes. Là, je suis en train de regarder une œuvre à nouveau, c'est une toile de 2 mètres par 2 mètres. La peinture prend tout l'espace et la broderie doit prendre à peu près 10% maximum de l'espace réparti en minuscules touches. Mais ça fait comme des points d'accroche de lumière, des petits soleils dans une tempête. Et ça rend l'œuvre extrêmement touchante et on sent les différentes dimensions. Et c'est vrai que comme elles sont exposées, c'est une très jolie scénographie, suspendue, on peut passer derrière, comme si c'était du linge qui était en train de sécher. Et on peut voir le travail de la broderie à travers les nœuds qui sont faits à l'arrière. C'est très propre, il n'y a plus que la mélodie du point. Et alors là, elles se sont carrément éclatées. C'est-à-dire que l'œuvre de Juliane est très centrale sur la toile de 2 mètres par 2 mètres. On a un éclat de peinture bleu nuit qui représente peut-être un animal, je ne sais pas. Et tout autour, elles ont fait un flamant rose avec des pattes oranges, un corps vert et une plume rose. Elles ont fait des arbres, elles ont fait la maison. Il y a des huttes, il y a un animal qui doit être un lapin. Il y a une maman et son bébé qui se tiennent la main. Il y a une main dessinée comme sur les parois des grottes préhistoriques pour indiquer une présence. Je regarde là en ce moment un cheval qui est en train de courir avec des pattes bleues, des sabots roses et un corps orange. Il est entouré de feuilles faites avec des points différents dans un vert émeraude magnifique. Magnifique ce travail. Et on l'a dit, on le redit, c'est les tissus qui servent à tenir les bébés autour du corps des femmes. Et on les voit ici, à Dakar, ces bébés, j'ai l'impression qu'ils dorment tout le temps tellement ils sont bien collés à leur maman.
Moi, je m'appelle Khadija Badjalo, j'ai le shop Alifan du 19M. Et j'ai une œuvre avec Juliane Je lui ai envoyé des pagnes, il a peint. Je m'inspire des pagnes que les mamans utilisent pour porter leurs enfants au dos. Ça s'appelle le malikan et c'est un tissu qui n'est pas forcément valorisé ici. Et je mets des broderies assez contemporaines pour que ma génération puisse le porter parce que les motifs étaient un peu vieillots. Je lui ai envoyé les pagnes, il a peint sur les pagnes et il me les a renvoyées. Et j'ai repris des broderies à la main par-dessus. Donc j'essaie de moderniser, ça s'appelle le tak de Ngaï Mehe. Parce que c'est un village qui est à Ngaï Mehe où des mamans font des broderies. Mais les motifs sont un peu vieillots. Elles le font parce qu'elles se le transmettent comme ça. Et j'essaie de le mettre un peu plus contemporain comme ça. Et je change aussi les tissus du lin, du coton pour que tout le monde puisse le porter. J'ai aimé le fait qu'elles aient interprété de leur manière et que moi je l'ai interprété. Je voyais des cases de sorcières, du soleil noir. J'ai vu plein de choses. À un moment donné, il y a le reptile là, bleu. Je pensais que c'était une grenouille. Il m'a dit, mais c'est un oiseau. Alors que moi, je lui ai mis des petites grenouilles tout autour.
Mais c'est ça qui est drôle et c'est ça qui est génial quand on découvre cette œuvre. Je ne sais pas combien de voix il y a. Il y a vos deux voix, mais il y a les voix des brodeuses aussi.
Les brodeuses, oui. C'est ce que je dis, le grand hommage, c'est à elles qu'il faut le rendre parce que bon, moi, je me suis inspirée de ça. Et à chaque fois que je vois les gens mettre leurs enfants au dos et utiliser cette broderie, je ne sais pas, ça me parle. Et je trouve que c'est une signature sans être une signature. Parce que dès qu'on le voit, on sait d'où ça vient. Et pourtant, elles sont autodidactes, elles ne sont pas... Je ne sais pas si elles sont dans le mode de transmission. En tout cas, elles le continuent parce qu'elles ont l'habitude de le faire. Ça reste quelque chose dans notre savoir-faire qui est maintenu par elles. Et c'est pour ça que j'essaie de le maintenir encore plus et de le valoriser pour que tout le monde puisse le porter et que tout le monde voit peut-être ce que je vois dans ça, en fait.
Et c'était comment cette aventure avec la galerie du 19M ? Ça s'est passé comment ?
Ah, ça s'est bien passé. C'est ce que je dis, ma gifle culturelle sur le travail fait main, je l'ai eue à Paris en plus. J'ai une maîtrise en droit des affaires à la base, hein. Je suis juriste et je suis allée à Paris pour faire un MBA en Luxury Brand Management. Et je suis allée à la manufacture de Sèvres et puis ils ont fait oui, c'est du luxe parce que c'est du fait main. Je me suis dit, comment ça c'est du luxe parce que c'est du fait main? Alors que moi, ma grand-mère, elle a un métier à tisser devant la porte de chez moi. Elle fait ça à la main, donc je me suis dit, mais c'est pas possible, ça veut dire que moi je vis dans le luxe. Et je ne me rendais pas forcément compte de ça, pour moi c'était normal. Je me suis rendu compte que c'est important en fait. C'est en ça que le 19M matérialise cela, dans la transmission du savoir, parce que c'est pour ça que je le fais, que ce soit même dans mon shop où on voit la pop art culturelle sénégalaise, les carapites, le pinton, ce qu'on mange, ce qu'on voit, ce qu'on sent, parce que dans ma boutique, j'essaie de retransmettre cette odeur-là, le tchouraï que nos mamans mettaient le matin très tôt quand on se réveillait. C'est en ça que cette collaboration est, c'est au cœur de la transmission. Ce pourquoi on fait les broderies, c'est la transmission. Pour que les futures générations s'intéressent à ça, pour qu'elles le portent, pour qu'elles soient fières de le porter. Et en fait, on se rend compte, quand on travaille avec le 19M, on se dit « Ah, donc on le fait pour quelque chose, c'est important. » Parce qu'ici, c'est vraiment un métier poussiéreux. Ce n'est pas des choses qui sont valorisées, où on est fiers de faire ça. Donc, ça apporte cette nouveauté ou ce côté moderne qui fait que c'est important, en fait. Ça valorise le savoir-faire et ça le pérennise hein, aussi. Et je suis sûre que ça va inspirer des gens de faire de la broderie, de venir lire ce pourquoi, c'est quoi le 19M, ce pourquoi ils sont à l'IFAN. Et voilà, c'est important.
Merci. Vous êtes brodeuse à Paris, mesdames ?
Oui.
Racontez-moi ce que vous êtes en train de faire.
Alors, on est en train de réaliser une œuvre participative sur la carte de Dakar, du coup. Un peu pareil que celle qu'on avait fait pour l'inauguration du 19e à Paris, donc avec le 18e et le 19e arrondissement. Et là, du coup, c'est la carte de Dakar où les gens pourront venir s'initier à la broderie et expérimenter les fournitures et la technique de la broderie à l'aiguille.
Je mets une perle et je replante directement dessous.
Oui, c'est ça.
Et après, je ressors n'importe où.
Sur celui-là, on passe deux fois.
Alors, je repasse au même endroit.
Oui, parce qu'ils sont plus grands, comme ça.
Et la trame de départ, là, du coup, qui a été faite en amont, là, tout ça, qu'est-ce qui l'a dessiné, ce projet ?
C'est une technique qu'on utilise beaucoup chez Montex. On appelle ça du transfert. en fait, on a une matière qui se présente d'abord en rouleau, avec plein de couleurs, de finitions différentes. Donc là, on voit ce qu'on appelle du floc, donc il y a cet effet velours. On a un côté plus pailleté, glitter. Il y a vraiment plein de textures, plein de variétés. Cette matière, on la découpe avec une machine qui s'appelle un plotter. Et c'est un peu une petite lame qui reproduit un dessin qu'on travaille d'abord à l'infographie. Donc il y a un côté assez numérique qui se mêle à l'artisanat. Et ça, c'est un peu une caractéristique de Montex aussi. Dans nos techniques, on aime bien mêler les deux, en fait, qui sont assez complémentaires, finalement.
Je suis Aska Yamashita, la directrice artistique de l'atelier Montex, un atelier de broderie basé au 19M, qui fait partie des maisons d'art de Chanel.
Et qu'est-ce que vous venez de découvrir? Là, je vous vois un petit peu émue.
Une installation qu'on avait au préalable conçue pour la Villa Noailles lors du festival de hier, pour lequel j'étais présidente du jury accessoire. Et Camille a décidé d'emmener aussi ici à Dakar. Et donc c'est la surprise de revoir cette exposition agrémentée d'une nouvelle pièce qu'on a développée avec toute une association ici sur place, dans le même esprit de ce qu'on avait réalisé pour hier, mais adapté avec le vocabulaire, on va dire aussi les matières de Dakar.
Alors on va faire un exercice très difficile, c'est essayer de décrire ce qu'on voit pour des personnes qui nous écoutent qui ne le verront pas.
Le principe de tous ces pans, on va dire, c'est un principe assez modulaire, ça part de symboles issus du langage textile. Donc on a des pieds de coq, des chevrons, qui s'étalent sur 5 panneaux différents, qu'on avait au préalable, donc pour l'exposition de hier, réalisé avec du cuir qu'on avait pris dans les tanneries Bonin Joyeux.
Oui, qui appartiennent au groupe, voilà. Et qui fournissent par exemple les usines de maroquinerie.
Tout à fait. Je suis allée sur place choisir les couleurs que je voulais sélectionner pour cette expo et on a imprimé sur chaque couleur un échantillon dont la technique de broderie était assez emblématique de l'atelier. Qu'on est revenu après agrémenté de fournitures issues de ces échantillons, mais en version complètement cristal, juste pour amener une petite, une touche de broderie bien sûr, mais aussi de la lumière.
Est-ce qu'on peut donner le nom de ces techniques par exemple ?
Là pour le coup, on a fait appel pour l'impression, c'est de l'impression numérique qui est faite sur cuir. Chaque module est découpé au laser et ensuite rebrodé à la main à l'aiguille. Et ensuite tout est doublé de rhodoïdes. C'est vraiment une matière qui est très utilisée dans la broderie parce que c'est avec ces matériaux-là qu'on fabrique les paillettes, qu'on découpe à la forme de nos modules et qui viennent amener un côté, donc on a un côté un peu plus mat quand on est, bon là en l'occurrence on a joué sur les deux côtés des panneaux, mais si on regarde le rouge, il est mat, il a un envers brillant, tout argenté. On joue quand même avec des couleurs monosurface.
Alors cette œuvre que vous avez faite avec des artisans sénégalais, comment ça s'est passé, les échanges ?
À la suite du défilé des métiers d'art qui a eu lieu à Dakar.
Le 8 décembre dernier, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, c'est ça. J'ai rencontré donc Marion, qui est par là, qui gère une association qui s'appelle Kertiosan, à qui on a exposé le projet, et puis qui après, elle, tout de suite, a réfléchi aux différents intervenants qui pourraient aussi aider sur la réalisation de cette pièce. L'idée, c'était de conserver un peu le même principe, un module. Là, pour le coup, il est plus issu du langage textile africain, donc des bogolans. C'est pas une forme pleine, nous, on est plus sur des formes pleines, et lui, c'est une forme ajourée, qui rappelait aussi certains endroits de l'architecture de Dakar, où il y a beaucoup de moucharabiés. On a décidé de les faire donc avec des matériaux d'ici, donc plutôt du jean, parce qu'ils ont énormément de jean sur place, qu'ils ont gravé au laser. Donc on est resté avec les mêmes techniques. D'accord. Le découpe laser et gravage pour le motif plutôt que l'impression. Et qu'ils ont rebrodé plus avec des perles. Pareil avec des jeunes femmes d'une association qui ont tout fait, elles. Donc on a développé un échantillon et après elles ont réalisé. Tout a été fait, on n'a fait que piloter à distance.
D'accord.
Et j'avais, lors de cette visite aussi, donc décidé qu'on allait faire sur jean, l'histoire de la gravure et la matière verso qui est réalisée à base de plein de sacs, de récupération de sacs plastiques, tous collés à chaud, ce qui crée cette matière un peu multicolore.
D'accord. Et on n'a pas parlé de la dimension, mais on parle d'une œuvre qui doit faire 3 mètres de haut sur 2 mètres 50 de large.
Oui, c'est assez grand. Je ne sais plus combien de modules il y a par pan, mais ça,
ou plusieurs centaines. Ouais.
Certains brodés, d'autres pas, mais voilà, c'était un peu tout ce jeu-là de voiture. Et après, tout est remaillé avec des anneaux pour créer un jeu quand même de plein, de vide, de comment après, les uns avec les autres, ils arrivent à raisonner.
C'était une belle expérience ?
Ah, c'était génial. Non, génial. Autant le départ, la conception, et là, de voir que l'histoire, elle peut se continuer ailleurs, avec d'autres équipes, autrement. C'est une très, très belle expérience. Toute cette exposition était conçue aussi avec la bande-son, qu'on n'entend pas très bien, mais que j'ai commandé à Olivier Hazeman, qui est un musicien, et qui l'a fait spécialement pour cette œuvre.
On va aller essayer d'entendre ça, alors. Merci, Ascar.
De rien, avec plaisir.
Moi, je suis immergée dans l'œuvre des ateliers Montex. Ça fait comme des chevrons rebrodés jusqu'au plafond qui sont multipliés par centaines et qui créent un motif comme des grands rideaux de château. C'est joué avec la lumière parce que, comme Ascar l'expliquait, il y a une face mate et une face brillante. Et l'histoire se prolonge avec ce dernier panneau qui est réalisé ici à Dakar. Bonjour.
Mon nom c'est Alassane Kone. Je suis l'artiste plasticien. Je viens du Mali. Je suis là pour l'exposition de Chanel. Mon travail est basé sur le tissage. Cela veut dire de créer des liens entre d'autres personnes ou de créer des liens sur des fils. Je dessine sur mon toile. Après, j'ai rogné mon fil et puis je coudre sur toile. Fabriquer des teintures, pigments naturels. Bon, donc j'ai utilisé ces pigments pour changer la couleur de mon fil. C'est du fil de coton.
Du fil de coton.
Oui.
Ici, en fait, c'est le fil qui compose les couleurs. Donc, par exemple, là, je vois une femme aux cheveux multicolores, oui, avec une robe verte, un fond orange et une branche violette aux fleurs blanches.
Souvent, je mélange beaucoup de fils, ça donne beaucoup de couleurs.
Et cette autre femme, elle a des tresses qui lui remontent sur les épaules.
Oui, avec une mouche aussi.
Elle est où la mouche?
Regardez bien. Voilà ici.
Ah oui.
Les mouches qui sont en train de tirer des liens avec des femmes. Cela veut dire qu'on peut passer des liens avec des inconnus.
Merci beaucoup.
Merci à toi aussi.
Je m'appelle Malik Weli, je suis photographe et artiste visuel. Mon œuvre, c'est une invitation à réfléchir envers nos rapports avec la nature. Ça, c'est une série que j'ai réalisée en 2021, quand tout le monde pensait qu'on allait mourir. Moi, je suis retiré de Dakar, je suis allé en Casamance, dans le sud du Sénégal. C'est une série qui questionne en fait nos rapports avec la nature. Comment les humains peuvent sauver la nature et comment la nature peut nous sauver au retour.
C'est du tissu, c'est ça?
C'est un projet en fait composé de photos et d'installations textiles et sonores.
Votre photographie, elle représente des personnages qui sont enrubannés dans des immenses rubans. On ne voit plus leur visage, on ne voit plus leurs yeux. Ils disparaissent en fait derrière le textile.
Ah, je ne vais pas dire disparaître, mais en fait, ça marque une présence parce que en fait, la série s'appelle Anonymous, composée de deux mots, anonyme et as, en anglais, nous. Nous, les humains, l'esprit qui est dans nous. Les humains incarnent en fait des esprits. C'est une visite que j'ai faite sur la communauté Mandiak, qui est une communauté marquée par une spiritualité très ancestrale. Toutes ces photographies représentent en fait les dieux, les déesses de ces communautés. Et c'est une communauté animiste. Dans chaque famille, il y a une présence en fait du bois. Il y a une pièce de bois qu'ils prennent comme un dieu. En quelque sorte, les photos, c'est des sculptures qui représentent la présence spirituelle de leurs ancêtres.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Alors, je m'appelle Pauline Guerrier et je suis sculpteur.
Vous pouvez me parler de l'œuvre que vous avez mise en place pour la Galerie du 19e?
Alors, cette œuvre s'appelle Les Toisons Caire. Caire, en fait, en Wolof, ça veut dire la maison. Et les toisons fait référence en fait à plusieurs phénomènes mythologiques, dont évidemment la toison d'or, Pénélope et son tissage, etc. L'idée de ce projet, ce sont trois cercles qui sont en face de nous actuellement et qui, il y a trois jours, au moment où je suis arrivée, étaient vierges et qui sont au fur et à mesure en train de se remplir d'une identité qui est uniquement créée à partir de matériaux que j'ai trouvés dans Dakar. En fait, l'idée, c'est que tous les matins, je vais faire le marché et je récupère des matériaux qui viennent du quotidien des habitants de Dakar, qui sont des élastiques, des gants pour se laver, des tissus, du coton. Et plus les jours passent, plus j'enrichis cette matériothèque qui sert au fur et à mesure à construire ce tissage. Ce processus de rotation permet de créer très rapidement en fait une maille et surtout de pouvoir faire intervenir tout le monde dessus puisque on peut atteindre du coup tous les côtés très facilement et voilà.
Ces trois cercles d'à peu près 2 mètres, le plus petit voilà, doit faire 1 mètre jusqu'à 2,20 mètres de diamètre.
Et 1 mètre 50.
Voilà, qui sont mis sur des structures rotatives qui leur permettent de basculer pour pouvoir être tissés.
Exactement. Il y a l'idée de créer un cocon, il y a vraiment l'idée de créer un espace refuge et aussi un espace de partage.
Merci Pauline.
Ben, merci à vous.
C'est quoi votre histoire, colonel? Vous êtes qui, vous, ici?
Déjà, je m'appelle Abdoulaye.
Oui.
Mon prénom, nom de famille, c'est Ndiaye.
D'accord.
Mais tout le monde m'appelle le colonel. Je suis né à Gorée, grandi à Gorée. J'ai fait toute ma vie sur l'île. Et aujourd'hui, je guide à Gorée, un guide touristique, pour parler un peu de mon île. Mon charme, l'histoire douloureuse qui s'est passée. Officiellement, je suis guide professionnel.
Pourquoi c'est important pour Gorée, pour l'île, pour ses habitants, qu'une maison comme Chanel s'investisse dans un projet culturel comme celui-là, la Galerie du 19M?
La maman de Laya Seydou, que je connais personnellement, parce que j'étais promotionnel avec sa sœur.
Vous étiez à l'école avec sa sœur quand elle était petite?
Oui, on a fait tous nos cycles primaires ensemble. Et sa maman s'active dans le domaine social, quoi.
Comment elle s'appelle, cette dame, on va dire son nom?
Valérie Schlumberger.
Valérie Schlumberger.
Oui. Vous savez, les Schlumberger, c'est la troisième fortune française. Je connais personnellement. Dans les années 60-70, elle vivait là avec son mari, à l'époque, qui tenait l'Institut français à Dakar. Donc, les Ondine et tous sont nés à Gorée.
Ondine, c'est SAO qui a une magnifique marque qui fait travailler des artisanes locales pour faire des très jolis objets de décoration et notamment des sacs.
Exactement.
Mais pourquoi, donc là, cet événement? Vous me racontiez qu'il y avait Pharrell Williams qui était venu.
Toute la délégation de Chanel était là. C'est moi qui les ai amenés à Gorée. Pendant 2-3 jours, on a essayé de faire des allers-retours.
Et comment ça se passe, la rencontre entre ces deux mondes?
La rencontre, bon, ils sont surpris, ils ne s'imaginaient pas, une fois arrivés à Gorée, que c'était si important. Ils ne s'imaginaient pas, quoi. Parce que tous ces esclaves qui sont partis de Gorée pour les Amériques, d'où le retour de ces Noirs américains, Martiniquais, Guadeloupéens, Haïtiens, etc., c'est la terre de leurs ancêtres. Donc, retour aux sources. Oui, au moins, Gorée, par l'année, on peut compter jusqu'à 700 000 visiteurs. Pour une petite île de 1800 habitants, ça fait l'affaire. Donc, plus grande destination touristique du Sénégal, d'ailleurs classée par l'UNESCO comme patrimoine mondial et universel.
Et vous pouvez me répéter la phrase? C'était la phrase de Jean-Paul II?
Oui, oui, c'était le message de la paix qu'il parcourait à travers le monde en ce que l'humanité demande pardon à l'humanité. En février 92, le pape Jean-Paul II est venu demander ce pardon ici. Dans son discours, on a pu retenir une phrase mémorable quand même, qui disait « De ce sanctuaire africain, de la douleur noire, nous implorons le pardon du ciel. » Une très belle phrase, certes, mais pas suffisante. Alors nous répondons « Oui pour le pardon, mais non pour l'oubli. » Parce que l'Afrique ne saurait oublier 4 siècles d'humiliation, 3 siècles d'esclavage, 1 siècle de colonisation. Alors, je vous dis toujours que l'Afrique lui reste un long chemin pour retrouver le bout du tunnel, quoi.
Merci, colonel.
Merci à vous.
Alors, je viens broder à l'atelier participatif Montex.
Je suis Lourdes Ferro et je suis brodeuse chez Montex.
Donc, vous brodez une carte de Dakar avec des séquins de toutes les couleurs.
Des perles, des tubes, beaucoup de ponitubes, beaucoup de couleurs.
Et est-ce qu'il y a une technique ou est-ce que tout le monde peut essayer? Est-ce que tout le monde peut y arriver?
Il n'y a pas une technique, c'est juste un point en arrière. Donc c'est assez simple et c'est pour tout le monde, pour tous les niveaux.
Alors là, c'est la gamme de bleu, donc c'est des tubes.
Oui, il y avait des petits carrés comme ça, trucs en bois. Et l'idée, c'est de suivre un peu le rythme.
D'accord. Et donc je passe ma main en dessous. Sous le métier, regarde, je vais tenir comme ça. Je passe ma main sous le métier et je vais avoir la surprise de où va sortir l'aiguille, qui n'est pas du tout là où j'imaginais. Tu vois, là, j'essaie de sortir dans le bleu, ça sort dans le blanc. Oh là là.
Non, mais c'est bien, tu peux venir.
Je peux aller où je veux, en fait. Parce que les brodeuses, vous travaillez beaucoup à l'envers et à l'aveugle, du coup.
Oui, c'est ça.
C'est ça, hein. Donc là, maintenant, j'ai passé mon fil. Je passe mon petit tube sur mon aiguille. Je pose. Et puis je repasse de l'autre côté. Mais c'est dur d'enfoncer l'aiguille.
Oui, parce
et ça
que
fait mal au bout des doigts. Fais voir le bout de tes doigts. Ils sont tout durs.
Oui.
Bah avec mes petits doigts de podcasteuse, ils sont pas prêts. Hein. Alors là, j'ai quatre brodeuses qui se moquent de moi. Et donc, on est en train de faire la carte de Dakar. Et on aura tous participé. Ça y est. La patience qu'il vous faut. Et à Paris, il paraît que ça a un succès fou, ces ateliers. Les couleurs, elles sont magnifiques. Elles sont pop, elles sont superbes. T'as parlé à des artistes là-haut?
Oui, j'ai sorti, je me suis approchée, on a parlé, on a discuté. Moi, je racontais un peu comment c'était la vie d'artiste à Dakar. Donc, c'était intéressant, de ces ateliers. Ils sont tous sympas, ils sont tous beaux, non?
Les artistes, oui, c'est vrai qu'ils sont tous beaux. Est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a particulièrement touchée?
Moi, j'aime beaucoup les premières, des tissus qui sont à l'entrée. J'aime beaucoup. C'est un peu abstrait, mais j'aime bien les couleurs. Je suis allée parler avec lui.
C'est Julien.
Oui.
Moi aussi, c'est l'œuvre qui m'a le plus bouleversée, celle-là.
Oui, c'est très, très beau. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir venir à Paris.
Oui, parce que c'est une œuvre de brodeuse. Ça ne m'étonne pas qu'elle vous parle, celle-là.
Oui, c'est ça. Et, voilà, l'esthétique et tout, je trouve très beau, les couleurs.
En basse lisse et en haute lisse, c'est la manufacture des tièces, a été transmise sous Léopold Sédar Senghor dans les années 60. Et c'est ce qui a permis à cette manufacture de se lancer, de prospérer et de continuer à former. Bonjour, monsieur, est-ce que vous pouvez me redire comment ce savoir-faire est arrivé au Sénégal?
C'est en fait un projet qui a démarré en 1964, où quatre jeunes Sénégalais ont été sélectionnés au niveau de l'École nationale des arts pour aller être formé en France au niveau des ateliers de gobelins et d'aubusson, donc avec le métier de lycée. À leur retour au Sénégal, en 1966, la Manufacture nationale de tapisserie a été inaugurée le 4 décembre 1966 par le président Senghor et le président Modibo Keïta du Mali. Et par la suite, un appel à candidature a été lancé pour former des jeunes Sénégalais au métier du tissage de la tapisserie. 1966-1970, 4 ans de formation, 15 jeunes Sénégalais, c'était la première promotion de lycée au Sénégal. Par la suite, il y a eu d'autres formations pour renforcer les équipes. Et en 2010, il fallait renouveler les effectifs. On a lancé d'autres formations pour la relève. À chaque fois qu'il y a une visite de Chanel, on a ce cérémonial là. Je ne sais pas si c'est Chanel qui nous porte chance ou pas, mais parce que la tombée d'une tapisserie, c'est un moment solennel.
Ce qu'ils appellent la tombée d'une tapisserie, c'est on découpe, on retourne et enfin on va voir ce qui a été fait sur l'endroit.
Céline Assis, il est lycée, c'est le plus jeune de la promotion. Donc c'est lui qui a réalisé la tapisserie là. C'est une tapisserie, c'est là au moins on a le titre. Ça s'appelle bain spirituel. C'est baigné. On est dans l'Afrique des profondeurs, le bois sacré, l'Afrique des mystères. C'est un rituel, quelqu'un qui se baigne pour peut-être avoir des bénédictions de ses ancêtres. En tout cas, c'est mystique. Alors, on va procéder à la tombée. Ce qu'on fait d'habitude, chacun coupe un bout. Donc, ceux qui veulent s'approchent pour couper.
Jusqu'à la fin.
Il faut être juste sur la ligne.
Le bruit du fil. Il y a un bruit, hein.
C'est Lourdes.
Elle a peur, elle aussi.
Non, mais c'est pour tout le monde.
Venez. Allez, vas-y, carrément. Ouais. Carrément, vas-y. Ouais. Voilà, c'est bien.
Là, c'est Apolline.
Vas-y. Oui, vas-y.
Notre brodeuse. Là, on a les brodeuses de mon texte qui sont en train de décortiquer une tapisserie qui est en cours de tissage. Alors, comme on tisse sur l'envers et qu'elle est roulée sur un rouleau, c'est très difficile de voir l'effet global. C'est comme quand on va visiter les gobelins. Mais là, c'est les couleurs qui leur parlent. Bonjour Askaya Macheta, directrice artistique de Montex. Comment vous vivez là cette démonstration de basse-lisse?
On en discutait avec Hélène qui elle est un peu experte en tapisserie et pratique plutôt de la haute lisse. Donc j'essayais qu'elle m'explique la différence entre les deux techniques et ce que ça pouvait amener comme type de point ou en tout cas d'appréhension du travail pour essayer de comprendre parce que c'est plus un domaine que moi, je connais pas trop, mais en tout cas que je trouve magnifique. Moi j'adore la tapisserie, et entre autres celle qui est exposée, je trouve Alifant du 19e, elle est quand même super chouette. Je suis assez impatiente de voir ce que ça va faire, la résonance entre celle de Alifant et celle du 19e. C'est des techniques qui sont très éloignées de ce qu'on pratique nous dans l'atelier, puisqu'on est plus sur la broderie. Et quand même, une technique que j'avais découverte en allant visiter les Gobelins moi, à Paris, où ils font le même travail, je connaissais un tout petit peu, et c'est chouette. Ouais.
Bonjour Hélène, vous travaillez également à l'atelier Montex. Vous pouvez me raconter la tapisserie telle que vous la voyez faite ici et comment vous la ressentez, l'analysez? Moi, j'ai pas ce regard technique.
Je pratique un petit peu de la tapisserie de mon côté. Du coup, je m'intéresse à plein de savoir-faire textile. Du coup, j'ai quelques connaissances techniques et c'est vraiment très intéressant de voir comment c'est pratiqué ici. Donc, les métiers sont un petit peu différents. Les outils aussi, ils sont très beaux. Et je remarque que le dessin n'est pas inscrit sur la chaîne. Et en fait, ils regardent à travers la chaîne leur dessin. Alors que nous, on a plutôt l'habitude de dessiner sur les fils. Donc, c'est un peu les mêmes techniques, mais avec un autre savoir-faire.
Il y a des outils que vous ne connaissez pas, qui sont sur ce métier?
C'est les mêmes outils, mais...
On peut les nommer?
Alors, je sais qu'en haute lisse, basse lisse, il y a différents noms. Par exemple, on appelle flûte ou broche, là où on entoure le fil. Après, il y a les peignes. C'est les mêmes outils, mais ils ont des formes un petit peu différentes, en fait.
Bonjour Lourdes.
Salut.
Vous êtes brodeuse chez Montex et on vient de voir le tissage de basse lisse à la manufacture de Thiès. Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous ressentez? Là, je vous ai vu sourire.
Bah, c'est toujours super agréable de voir des gens qui font aussi de l'artisanat.
Il y a une façon qui vous surprend dans leur façon de bosser? Ou est-ce que c'est exactement
bah,
comme
oui,
ça?
Oui, les métiers, c'est impressionnant. Il est très grand, ils sont en hauteur. C'est impressionnant.
C'est vrai que le métier, moi j'ai jamais vu un métier comme ça. Ils doivent faire, ils sont trois assis les uns à côté des autres,
oui.
En hauteur, à
un mètre. Des tabourets,
ouais. Avec des grandes pédales en bois.
Et aussi Hélène, elle fait un peu de tapisserie, mais tu sais qu'en général tu dessines dans les fils. Et eux, ils sont les calques en dessous, donc c'est un peu plus difficile, il paraît.
Qu'il y a déjà à Alifant la tapisserie du 19M. Donc le deuxième volet était de dire on fait faire la même chose avec la photographie du musée de Alifant et donc du lieu de l'exposition du 19M à Dakar. Donc cette photo, on a envoyé ce dessin à Aloïse comme on avait envoyé le premier dessin. Et à partir de ce dessin, eux doivent coder chaque point de tapisserie.
Je m'appelle Riyad Fakhri, je suis né à Dakar. Je suis sociologue de formation. Et il y a quelques années, j'ai créé un centre d'art à Dakar, au milieu de la place de l'Indépendance. Donc je suis impliqué sur la scène dakaroise depuis maintenant quelques années. Et c'est comme ça que j'ai rejoint la programmation du 19M à Dakar.
Vous avez monté un lieu à Dakar?
Oui, ça s'appelle l'agence Tram. C'est un vieux bâtiment des années 50 qui a été utilisé pendant longtemps pour faire du gros outillage électrique par une société franco-allemande. Et lorsque j'ai récupéré ce bâtiment, pour moi, ça faisait sens d'intégrer mon projet artistique dedans, parce que le projet artistique, c'était de promouvoir les arts. Et j'ai très vite compris que dans une ville comme Dakar, plus qu'ailleurs, où il y a une pression immobilière monstre, j'ai vite compris que l'espace, c'était la clé, et que si je pouvais bénéficier d'espace, alors je pouvais mener à bien ce projet. En deux mots, le but, c'est d'inviter les Dakarois à s'arrêter un instant et à réfléchir avec les artistes sur des questions de société qui, moi, me semblent importantes. On a, par exemple, parlé de la mort des migrants en Méditerranée, on a parlé de l'écologie, on a reçu les enfants des écoles pour ce projet-là, on a parlé de la surpêche et de l'impact que ça a sur les sociétés de pêcheurs et les familles sénégalaises. Donc on choisit plutôt des sujets graves et on fait entrer le spectateur dans ce bâtiment et on espère que, grâce au travail de médiation de l'artiste, on va l'inviter à se poser des questions et peut-être se demander in fine s'il peut améliorer son quotidien, notre quotidien. Voilà un peu le but de Tram. Alors il y a un espace d'exposition, des studios pour artistes, des résidences pour artistes, il y a les bureaux de notre agence de promotion, il y a un bar-restaurant sur le toit, il y a aussi l'école Courtrage-Mé dont on est partenaire, et l'argent qui est gagné grâce aux soirées et aux restaurants est injecté dans le projet artistique du bâtiment.
Alors racontez-moi cette aventure de la galerie du 19M. Qu'est-ce que ça vous a permis d'exprimer?
Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était la question du partage, parce qu'il fallait s'inspirer de ce qui avait été proposé à Paris et tenter de faire une programmation qui faisait sens sur notre territoire. Et je parle de partage parce qu'il y a eu des allers-retours évidemment entre nous et Paris, mais il n'a jamais été question d'importer un projet et de le proposer au regard du spectateur sénégalais. On a essayé d'être inclusif le plus possible. Et la programmation s'est basée sur notre connaissance du territoire dans lequel on évolue, c'est-à-dire le territoire dakarois et sénégalais en général. Le partage aussi parce que Camille Hutin, la directrice de la galerie du 19M à Paris-Aubervilliers, a souhaité que dans le comité nous soyons plusieurs. Et donc on a appris à collaborer. Moi, c'est plutôt une aventure humaine que je retiens. Et en plus, j'ai redécouvert des métiers de la main que j'avais oubliés, où je ne voyais plus, c'est ce que je retiens, oui.
Pourquoi vous ne les voyez plus, ces métiers-là?
Quand on évolue sur la scène de l'art contemporain à Dakar, on est plutôt entouré d'artistes et de plasticiens. Et les artisans, ils ont aujourd'hui des métiers qui sont plus commerciaux, je suppose. Les artisans fabriquent des vêtements, fabriquent des objets à destination du grand public. Et le lien qui a été impulsé à Paris dans le 19e entre l'artiste et l'artisan, ben peut-être qu'ici, il n'était pas aussi présent que ce qu'on pouvait croire. Et notre rôle a été de recréer du lien entre les deux.
Vous sauriez me dire le rapport des Dakarois avec leur artisanat ? C'est un peu comme vous, comme c'était un trésor qu'on ne regarde jamais ?
C'est plus un métier que l'on ne regardait pas, je pense. C'est plutôt cette nuance que je voudrais faire. C'est qu'aujourd'hui, notre projet à la Galerie du 19e à Dakar, c'est de montrer l'artisanat. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas, mais ça veut dire qu'on met un coup de projecteur. Il existe parce que quand vous marchez dans la rue, surtout le vendredi qui est le jour des cérémonies religieuses, vous verrez hommes et femmes mettre leurs plus beaux apparats. Et là, il y a énormément de broderies, notamment sur les plastrons des boubous. Donc la broderie existe. Elle se fait loin des yeux, dans les ateliers des brodeurs, et le public ne participe pas vraiment à son élaboration. C'est plutôt cette nuance que l'on a voulu effacer, gommer, et j'espère que le résultat plaira.
Est-ce qu'il y a une œuvre qui vous paraît représenter tout particulièrement la démarche que vous avez eue à cette galerie du 19e Dakar ?
Il me serait très difficile d'en choisir une. Je les aime toutes, vraiment. Si je devais en sélectionner une qui démontre à quel point on a été capable d'être inclusif et en même temps d'être en lien avec le territoire parisien, ce serait le partenariat que l'on a créé au rez-de-chaussée entre l'œuvre d'Aska Yamashita, qui est la directrice artistique de la maison Montex, et un centre d'art qui est dans une grande banlieue de Dakar qui s'appelle Kurtiosan. Kurtiosan nous a aidés à produire, en utilisant tout son écosystème, un pan qui est exposé en parallèle avec les pans de Aska qui sont arrivés de Paris après avoir été exposés hier. C'est une œuvre qui est assez révélatrice de notre travail parce qu'ont été impliqués un designer, le Fab Lab de Kurtiosan. On est allé sur les marchés pour acheter du jean recyclé. On a fait intervenir les jeunes filles d'un centre de réinsertion sociale qui ont brodé sur le jean. Et le jean a été découpé en respectant une forme particulière qui est celle des moucharabiers, des maisons dakaroises, malheureusement qui tentent à disparaître, mais il en restait certaines. Et comme il fallait aussi un revêtement sur le verso, comme par hasard, à ce moment-là, il y avait un jeune artiste indonésien. Lui, il ramasse les morceaux de plastique dans la rue et il les agglomère avec un simple fer à repasser. Et il en crée une énorme toile, donc une toile multicolore de sac plastique. Eh bien, ça a servi de verso à l'œuvre sénégalaise qui fait écho au travail d'Aska. Donc celle-là, moi, je trouve qu'elle est assez symptomatique. Mais encore une fois, je les aime toutes et je pourrais en parler des heures. Un de nos challenges aussi, c'était de trouver des vieilles techniques de broderie. Et on s'est rendu compte que là, il fallait qu'on aille vers le nord. Au nord, dans un village qui s'appelle Ngaïméré, qui est connu comme le centre de l'artisanat au Sénégal. Et là, il y a des femmes qui brodent des pagnes et des robes. Alors les pagnes sont utilisées pour envelopper les nouveau-nés. Et sur l'œuvre de Julian Farad, on peut retrouver, en tout cas le public sénégalais va reconnaître des motifs très symptomatiques de l'artisanat et de la broderie sénégalaise. Ce sont des tout petits losanges bleus et rouges.
Je vois, je me suis promenée pendant longtemps dans l'œuvre de Julian en parlant toute seule à mon micro pour essayer de décrire cette conversation entre l'artiste et ses artisanes. Oui. Et c'est encore plus émouvant de savoir qu'ils ne s'étaient pas vus et qu'il y a une conversation qui s'est faite avec le cœur et avec les mains qui est sensible dans l'œuvre d'une façon particulièrement émouvante.
L'œuvre de Julian, elle est très intéressante de ce point de vue-là parce que Julian, il commence à dessiner et peindre sur ses toile ou tissu, et ensuite il brode avec ses points à lui. Eh bien nous, on lui a dit, si tu permets, tu ne broderas pas. Ce sont les brodeuses de Ngaïméré qui le feront à ta place. Et petite anecdote, lorsqu'on a emmené les dessins de Julian dans ce village, les femmes ont très vite décidé lesquelles elles souhaitaient sélectionner pour broder.
Il y a une femme par dessin, on se demandait.
Oui. Il y a une femme par dessin.
Ça se sent. On sent vraiment une personnalité à chaque fois.
Oui, oui. Et on a même essayé d'aller plus loin dans le clin d'œil à la culture sénégalaise. C'est qu'on a demandé à Julian, qui a tout un bestiaire, il fait des formes un peu animales, parfois difficilement identifiables. On lui a demandé de s'inspirer d'un conte pour enfants qu'on a tous lu, qui a été écrit par l'ancien président de la République, Léopold Sédar Senghor, qui s'appelle Luck le Lièvre, que tous les Sénégalais connaissent.
Ah, on l'a vu, le Lièvre.
Ah, c'est ça.
J'ai vu le Lièvre.
Voilà.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous avez envie de dire au micro de passionnés d'artisanat d'art français?
J'ai envie de leur dire de venir visiter le Sénégal. C'est un pays merveilleux. Il se passe beaucoup de choses, tout le temps.
Et puis le Sénégal va venir à Aubervilliers, puisque l'exposition va être montrée à la Galerie du 19e d'Aubervilliers.
Pour le printemps de cette année.
Nous serons tous là.
Nous aussi.
Merci beaucoup.
Merci.
Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métiers Rares est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été réalisé par Philippe Calvérac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcasts. On aime aussi vous lire sur Instagram, sur le compte the.craft.project.